Maintenant, nous recevons Anne-Marie.
Oui,
Anne-Marie,
merci.
Anne-Marie, bonjour, enchantée. Bienvenue. Et Anne-Marie, alors vous êtes la fondatrice et la présidente de l'association ALCIP. ALCIP qui est un acronyme qui désigne, mais je vais vous laisser dire.
Ça s'appelle ALCIP, Association de lutte contre les injustices sociales et la précarité. Et on représente principalement et officiellement les personnes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale. Mais on s'occupe aussi de toutes sortes de précarités qu'on peut rencontrer à Genève.
D'accord. Alors, on va immédiatement dire que le site internet se trouve à l'adresse suivante, www.alcip.ch.
Tout à fait.
Et que là, il y a toutes les informations que l'on va énumérer également ici. Et également un formulaire de contact, hein, si les personnes veulent justement vous retrouver.
Merci.
Alors, en quelques mots, quand et comment s'est créée cette association-là ?
Bien écoutez, elle s'est créée en 2010. Auparavant, moi, j'ai fait de la politique. J'étais un temps secrétaire cantonale du Parti du Travail. Et puis, j'ai eu quelques déceptions en politique. Je me suis rendu compte, en fait, qu'on n'était pas si un électron libre en politique. Qu'il y avait des associations de toutes sortes, mais il n'y avait pas encore d'associations qui représentaient officiellement les personnes à l'aide sociale. J'ai décidé de créer cette association avec l'aide de plusieurs personnes issues de divers milieux, principalement de gauche, évidemment. Ça, c'est... Et puis, elle est devenue très vite d'utilité publique. Aujourd'hui, c'est encore une petite association, 8 ans après. On a environ 122 membres.
Bah, quand même.
Mais quand même, c'est pas mal. Voilà.
D'accord.
Et alors, on a fait du bon travail jusqu'à maintenant.
Voilà, alors, c'est ça que j'allais vous demander. C'est quel est votre champ d'expertise et votre champ d'action ?
Il est en deux phases. Principalement un point individuel dans le sens qu'on reçoit des gens pour des conversations individuelles, pour régler des problèmes, par exemple un problème qu'ils ont avec des assistants sociaux. On fait de la médiation. On arrive en général à toujours régler les problèmes parce que c'est souvent des malentendus, du stress, on n'ose pas dire ce qu'on ressent, etc. Et puis on arrive à faire comprendre à l'assistante sociale ce que la personne n'ose pas dire. Et puis en général, on arrive à résoudre les problèmes. Parfois, c'est un peu plus important parce que parfois, il y a des dénis de droits. Alors là, il faut intervenir également. Mais on arrive toujours pour le moment, en tout cas jusqu'à maintenant, on est toujours arrivé à s'entendre. On a une bonne collaboration avec l'Hospice Général. Mmh. Et puis, il y a un plan collectif qui est un peu plus large. Alors par exemple, chaque vendredi, il y a une distribution de nourriture pour les personnes qui sont vraiment en grande précarité. Je donne un exemple, une personne qui est à l'Hospice Général et puis qui a un entretien de base de 1100, dont le loyer est pris en charge à hauteur de 1 100 francs. Avec la crise du logement, il y a les personnes qui doivent puiser sur leur entretien de base pour compléter le loyer. Donc, oui. Des fois, ils vivent avec 200 ou 300 francs par mois. Donc, effectivement, ces gens-là, on leur donne de la nourriture. C'est une aide d'appoint, hein, forcément. Et puis, il y a aussi des personnes qui devraient pouvoir avoir l'aide sociale, mais qui ont un permis B et qui, pour ne pas pouvoir le renouveler, ils ne s'autorisent aucune dette, ils ne s'autorisent pas à aller à l'aide sociale. Donc ceux-là, c'est surtout des familles en plus. Elles sont très, très grande précarité, donc on les aide aussi. Et en même temps, on essaie de trouver d'autres solutions, par exemple. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont droit à une aide au logement ou des aides diverses, etc. Puis on fait des fois des réunions, qu'on appelle ça des jeudis rencontres, pour que les gens puissent parler entre eux, se réunir, discuter de divers sujets. On organise aussi des sorties, des pique-niques en été, des sorties socioculturelles, etc. Donc on essaie de faire beaucoup de choses. Et puis aussi avoir une collaboration, enfin une collaboration c'est beaucoup dire, mais on essaie de voir une ou deux fois par année les politiques, la commission des affaires sociales du Grand Conseil, pour faire remonter ce qu'on a, notre... disons, nos observations du terrain et puis faire des propositions pour que la vie des gens puisse s'améliorer. Parce qu'il n'y a pas de fatalité dans un pays riche, des pauvres, c'est un non-sens.
Absolument. Et alors justement, concernant cette pauvreté, quel est, de votre point de vue, l'état de situation de la population à Genève, en Suisse romande ou même en Suisse ? Est-ce qu'on observe qu'on arrive à ceindre ce problème de pauvreté ? Est-ce que malheureusement pas ? Au contraire, il s'étend. Et quel type de pauvreté est-ce qui est le plus prégnante ? Est-ce que c'est une pauvreté qui accompagne les gens longtemps ou est-ce qu'on arrive justement à s'en sortir ?
Justement, c'est assez inquiétant parce que, en tout cas pour Genève, on a une politique du chômage enfin de gestion de l'emploi qui est catastrophique. On a l'impression, et ça revient souvent, les gens, autant ceux qui viennent du chômage qu'après ceux qui attaquent à l'aide sociale, nous disent régulièrement, eh bien, on fait tout pour que les politiques font tout pour qu'on ne puisse pas s'en sortir. Et je vous donne des exemples. Par exemple, au chômage, quelqu'un qui a été longtemps, par exemple, une maman, je me rappelle, elle est divorcée, et puis elle a été caissière à la Migros pendant 10 ans. Elle aimerait bien faire autre chose parce qu'elle n'en peut plus, puis que c'est plus en accord avec la gestion de ses enfants. Il faut finir à passer 7 heures, etc. Mais quand même, elle avait quelques petites expériences en tant que secrétaire, mais ce n'était pas officiel. Et elle a demandé à l'Office cantonal de l'emploi de pouvoir faire une formation dans le secrétariat. Et puis on lui a dit non, vous êtes vendeuse, il faut rechercher dans la vente. Résultat, elle est arrivée à l'hospice général. Après, je veux dire, c'était catastrophique parce qu'elle avait donc perdu son travail en plus, parce qu'il y a restructuration. Évidemment qu'il y a des dettes qui se sont rajoutées là-dessus. Après, à l'hospice général, on lui fait faire des stages éventuellement pour voir si elle peut avoir les capacités pour retrouver un emploi. On lui dit qu'elle fait tout juste, elle pourrait bien effectivement avoir droit à une formation. Mais après, quand on regarde son état de finances, on lui dit « Ah, vous êtes endettée, donc vous avez des dettes, donc pour nous, on ne peut pas vous payer des formations. Donc vous restez à l'hospice et on ne sait pas. » On ne sait pas ce qu'il en est après.
Oui, voilà, il y a des situations finalement qui s'éternisent.
Exactement. Alors dans le fond, on peut vraiment dire que la situation économique et sociale, elle n'est pas prise en compte. Et puis en même temps, bah, j'ai envie de dire que la politique de gestion de l'emploi et puis la politique sociale, elle n'est plus en phase avec cette réalité.
Absolument. Et alors, vous qui êtes d'une certaine manière un transfuge de la politique à l'associatif, comment se fait-il que vous avez décidé de faire ce pas-là ? Est-ce que selon vous, justement, lorsque l'on observe le champ justement de lutte des politiques, eh bien, finalement, celui-ci est contenu et qu'il ne répond pas finalement à ces situations-là et qu'il vaut mieux solliciter et créer au sein de la société civile de trouver des ressources là-dedans ? Ou quel est votre...
J'ai l'impression que c'est difficile de faire de la politique tout en étant foncièrement honnête, loyal. Quand je dis loyal, c'est loyal à la population. Il y a un moment donné où on doit, à un moment donné en politique, un peu faire des choix et on doit répondre collectivement au groupe politique auquel on appartient, à suivre le mouvement, et puis à opter des stratégies pour se faire élire, etc. En fait, quelque part, on n'est pas un électron libre. Et c'est ça qui me dérangeait beaucoup. Et moi, j'apprécie beaucoup plus d'être dans une association parce que j'ai vraiment l'impression que là, on peut parler plus librement. Et puis, on est beaucoup plus en phase et puis en communication avec la population.
D'accord. Et alors, du point de vue justement d'une association, eh bien, comment est-ce qu'on se sort de cette impasse-là ? On vient de le dire, la pauvreté, elle recouvre de plus en plus de personnes, elle touche de plus en plus de personnes, elle est plus durable au sein des familles ou des personnes qui sont touchées. Et on l'a vu que si autant on demande de la flexibilité aux personnes qui sont aux employés, autant les employeurs ou en tout cas les institutions font preuve de très peu de flexibilité, notamment, si j'ai bien compris, dans les recensions et dans les validations d'acquis.
Tout à fait.
Alors, voilà, comment est-ce qu'on se sort de ça ?
Ça, c'est une grande question.
J'imagine. Mais j'imagine que vous avez peut-être déjà en tête des pistes.
Moi, quand j'ai fondé l'association, j'espérais pouvoir fédérer plus de monde parce que je voyais que les gens souffraient énormément. Mais en même temps, on est dans une société où tout est sclérosé, tout est bien en place, etc. J'entends, par exemple, si on veut faire une manif, parce que visiblement, on n'arrive pas à se faire entendre des politiques. On le voit bien, on essaie de faire tout ce qu'on peut. Alors moi, j'ai souvent rêvé d'une manif pacifique, un grand sitting, etc. Et puis c'est très difficile, parce que les gens qui sont concernés, d'abord, ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas l'esprit militant. Il faut l'avoir, et ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut un certain courage, puis on a peur encore de perdre les quelques acquis qu'on a. Les gens, quand ils font des manifs à Genève, par exemple, enfin en Suisse en général, mais vous voyez bien que si on fait une manif, bien sûr, il faut des autorisations, donc on sait à quelle heure ça commence, à quelle heure ça se termine, on sait où est le trajet. Donc les politiciens, ils restent bien sagement dans leur bâtiment, puis ils attendent que ça se passe, puis chacun rentre chez soi. Après, c'est des manifs à 50 personnes ou une centaine de personnes, puis comme ça chacun rentre chez soi, puis tout le monde a l'impression d'avoir fait son job, ouais. Et puis après il n'y a rien qui bouge. Alors moi je rêve toujours d'une manif pacifiste, je tiens à le préciser, un sitting, une prise de conscience pour faire comprendre à la population qu'en ce moment c'est vraiment très grave ce qui se passe. Et je sais qu'ils en sont conscients, parce que plus de la moitié de la population est en précarité. Et pas seulement les gens qui sont à l'aide sociale, il y a aussi les travailleurs pauvres, les travailleurs précaires, etc. Il y a plein de gens qui sont dans cette précarité et qui n'en peuvent plus. Il y a avec la crise du logement en plus qui s'y rajoute, il y aurait toutes les raisons de faire bouger les choses. Mmh. Mais malheureusement, on n'en est pas là.
Et oui, alors Anne-Marie, justement, selon vous, qu'est-ce qui manque pour que ce basculement s'opère? Parce qu'effectivement, on comprend que la personne qui est déjà durement touchée souhaite qu'on la laisse le plus tranquille possible. On en a parlé tout à l'heure avec Jean-Claude, donc du collectif du 17 octobre, de ces personnes qui effectivement ne vont pas réclamer une prestation qui leur est due, justement parce qu'elles s'isolent, parce qu'elles n'ont pas envie d'être stigmatisées, elles n'ont pas envie d'être remarquées. Donc on comprend bien ça. Et à l'opposé, on entend bien que des personnes qui sont déjà assez opulentes, eh bien, elles ont plus facilement accès aux médias, accès, et puis à une parole, disons, totalement libérée, oui. Et même des fois un petit peu trop libérée, hein, on a l'impression.
Tout à fait.
Alors voilà, qu'est-ce qui manque pour qu'on arrive à basculer? Est-ce qu'il faut que ces personnes qui sont dans des situations délicates arrivent à se regrouper pour se sentir rassurées, ou je ne sais pas?
Alors, c'est terrible ce que je vais dire, mais à la limite, il faudrait que les gens soient encore plus dans la précarité, qu'ils n'en peuvent plus. Vraiment, parce que pour le moment, ils ont encore certaines ressources. Et quand les gens n'en peuvent plus, parce qu'il y a beaucoup de dépression, la précarité, ça amène à des situations terribles. Il y a des gens qui n'avaient pas de dépression avant, quand ils étaient bien et tout. Mais là, quand ils commencent à rentrer au chômage et puis après à l'aide sociale, etc., ils commencent à perdre espoir, et c'est là que les ennuis commencent. Mais malheureusement, cette violence, parce que c'est une violence institutionnelle quelque part, cette violence, au lieu de l'exercer à l'extérieur, ils la retournent contre eux, par une dépression, parfois même des tentatives de suicide. Moi, j'en vois depuis des années. Et donc, ça fait mal. Mais en même temps, j'ai envie de leur dire, mais vous n'êtes pas tout seul. Et cette impression aussi que les gens, ils sont tout seuls dans leurs problèmes, où il n'y a qu'à eux que ça arrive. Mmh. Ou alors, ils savent qu'il n'y a pas qu'eux, mais ça reste encore très théorique.
C'est un nuage, voilà, exactement.
C'est un nuage, exactement.
Ouais. Okay. Alors, de quoi auriez-vous besoin au sein de l'association Alcib, justement, pour renforcer votre lutte? Est-ce que vous auriez besoin de personnes qui vous rejoignent pour faire corps?
Ah, alors, volontiers.
Voilà.
Oui.
Est-ce que vous auriez également besoin de personnes qui vous mettent des lieux à disposition pour parler, pour présenter, pour expliquer, parce que vous parliez justement de prise de conscience de cette importance-là?
On a un local, un petit local, oui. C'était dans l'immeuble de Caritas, mm-hmm. au 6e étage. Puis si jamais on veut, on peut toujours louer une salle à la Maison des Assos si on veut faire quelque chose. Maintenant, avant, il y a 2-3 ans, on avait encore une équipe qui était un peu plus avec des militants, je veux dire, à l'intérieur, hein, parce que il faut dire ce qui est, c'est une association militante.
Bien sûr, bien sûr.
Et alors, par contre, là, depuis 2 ans, on a moins de personnes qui peuvent s'activer pour proposer des choses. On a beaucoup de demandes de personnes qui sont là en demande d'aide. Il nous manque un petit peu plus de personnes qui seraient militantes, en fait, pour
D'accord.
s'occuper.
Alors, donc, des personnes qui vous rejoignent comme ça.
Exactement.
Et dans quel, entre guillemets, corps de métier? Est-ce que c'est plus des personnes qui seraient à même d'écouter les gens, de recenser,
oui,
leurs témoignages, de travailler sur le site internet? Enfin, quels sont les...
Alors, il faudrait...
Un peu de tout.
Oui. Moi, je rêve d'avoir, et je devrais passer, je pense, c'est de passer un message par internet, mais je vais en profiter pour...
On est là pour ça
pour
également,
la,
oui.
La radio, c'est fantastique. On aurait besoin de juristes pour certains cas.
Oui, oui.
On aurait besoin d'assistantes sociales. Ce serait génial d'avoir, oui, des assistantes sociales en plus. Ça, ce serait fantastique. Et de personnes qui voudraient un peu plus s'engager pour organiser d'autres sorties, d'autres activités, ce serait fantastique d'avoir ça.
D'accord. Et ça, comment est-ce que vous pourriez justement arriver à trouver ces personnes ressources? Est-ce que, par exemple, parce que vous parlez de juristes, on a récemment interviewé ici à Libre Radio le service juridique de l'université. Donc, mmh, ce sont des étudiants en droit.
Oui, je connais.
Voilà, est-ce que vous avez déjà des pistes? Vers qui est-ce qu'on pourrait se tourner pour trouver des nouvelles ressources?
Moi, en général, parce que je connais bien la LIASI, donc la loi sur l'aide sociale. Alors, oui, s'il y a des dénis de droit, je peux des fois, même que je ne suis pas juriste, mais disons, il m'arrive de pouvoir faire une lettre parce qu'il y a une personne qui est à l'aide sociale et puis, par exemple, une assistante sociale refuse de lui payer ses lunettes alors que c'est, par exemple, son droit. Là, je peux faire un courrier en indiquant, en demandant pourquoi, le pourquoi pourquoi du refus en indiquant les voies de recours et puis en général ça marche. Mmh. Après ça peut être des cas beaucoup plus complexes et alors là j'ai tendance à réorienter ces personnes sur d'autres associations qui ont des juristes. Voilà, pour le moment ça marche
pour le
comme
moment,
ça.
Pour le moment ça marche voilà. comme ça, mais voilà, en tout cas l'appel est lancé. Si des personnes qui nous écoutent souhaitent rejoindre l'association ALCIP, eh bien prenez contact, soit directement via le site internet dont je rappelle l'adresse, www.alcip.ch, ou alors via la radio, et puis nous bien entendu qu'on transmettrait.
Merci.
Avec beaucoup de
Merci
plaisir.
Merci beaucoup.
Alors, nous allons parler maintenant, on reviendra là-dessus, parce qu'effectivement il y aurait énormément de choses à dire, on est un petit peu ric-rac aujourd'hui avec le temps malheureusement. Notre prochaine invitée est d'ores et déjà parmi nous, avec laquelle nous allons parler de l'exposition à la bibliothèque Filigrane. L'exposition qui commence le 13 novembre, si ma mémoire est bonne, mais t'étais habillée comment? C'est ça, c'est le 13 novembre que ça commence. Hein. Alors, on en parlera tout à l'heure, mais là aussi également, un sujet vaste. Donc aujourd'hui, malheureusement, on a des temps un petit peu réduits, mais c'est pas grave. Nous, on peut, bien entendu, avec notre radio mobile, après se rendre et puis se revoir. Mais on trouvait intéressant quand même de immédiatement commencer parce que l'actualité fait que le 25 novembre prochain, nous votons.
Oui.
Alors, il y a beaucoup de sujets et des sujets extrêmement importants, mais parmi ceux-là, eh bien, il y a le référendum contre la loi sur la surveillance démesurée des assurés.
Oui.
L'ALCIP est partie prenante, elle se détermine par rapport à ça. Alors,
Bien
de quelle
sûr.
Manière se détermine-t-elle?
Cette loi, si elle passe, ça va créer un climat complètement délétère et paranoïaque. Je veux dire, les gens, déjà, ils se sentent complètement surveillés, notamment les gens qui sont déjà à l'aide sociale, parce que quand on rentre à l'aide sociale, on doit déjà se dépouiller, je vais dire, de toute sa vie privée. Hein,
tout à fait. Ouais, on doit déclarer vraiment que l'on,
voilà,
que l'on
alors,
permet...
Bon, on peut comprendre, hein, voilà, parce que c'est en l'état, ça peut être quelque part
oui,
normal.
Oui.
Mais par rapport aux assurés en eux-mêmes... Je veux dire, c'est pas humain. Je veux dire, il y a des gens, effectivement, que des fois, ils prennent un jour de congé parce qu'ils sont fatigués, mais juste pas assez malades pour aller chez un médecin pour faire un certificat médical. Et ça peut être tout à fait normal. Il y a plein de choses qui font que, je veux dire, cette loi, c'est complètement insensé. On n'imagine pas avoir des drones à ses fenêtres. C'est complètement dingue. C'est Big Brothers à l'état
pur. Oui, voilà, parce qu'on le rappelle, ce référendum contre la surveillance. Donc, c'est la loi qui permettrait aux assurances d'espionner librement celles et ceux qui en bénéficient sur la base de leurs seuls soupçons.
Exactement.
Donc là, on parle en plus de soupçons.
Surtout que ça existe déjà. Hein. Ouais. Les assureurs, ils peuvent envoyer des enquêteurs au domicile de la personne pour voir si elle est bien là, si elle est malade. Ils peuvent demander des expertises médicales, etc. Donc les lois sont déjà là. C'est juste les renforcer, mais de façon complètement, excusez-moi, mais vraiment...
Abusive. Intrusive.
Totalement.
On peut, effectivement, ça rappelle même des formes de délation d'une certaine manière, enfin ça touche à...
Mais ça crée un régime totalitaire quelque part.
Oui, absolument. Là c'est le 25 novembre, donc Libre Radio, nous on s'associe évidemment à toutes les personnes qui lancent cet appel pour refuser, enfin en tout cas pour aller dans le sens du référendum. Comment est-ce qu'on, de votre point de vue, comment est-ce que, si il fallait diagnostiquer un petit peu ce que pense la population autour de nous, est-ce qu'on pense que cette loi va être refusée?
Alors, j'espère de tout cœur qu'elle va être refusée. Mais en même temps, quand je regarde le monde actuel dans son ensemble et comment je vois comment les populations votent en ce moment, ça me fait un peu peur. Mais il faut quand même être conscient que si cette loi passe, ils ont le projet de l'étendre à toutes les autres sortes d'assurances, y compris donc les gens à l'aide sociale, les gens qui sont à l'AI, etc. Mais je veux dire, si la loi passe, il faudra être juste. Parce qu'en même temps, il y a beaucoup de riches également, de riches personnes qui fraudent de façon... voilà. Alors, j'aimerais bien que si cette loi passe, alors dans ce cas-là, il faudra surveiller davantage les autres.
Alors, effectivement, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ça crée clairement un précédent extrêmement dangereux, avec évidemment tout ce qui peut arriver par la suite dans les mises en œuvre qui peuvent être extrêmement délétères. Et puis, il y a un problème d'équité où là, actuellement, plus à Genève, on observe vraiment des dysfonctionnements incroyables du côté de la classe politique. Alors, sans vouloir en rajouter,
non, mais
franchement,
faut être juste.
Voilà, exactement,
il faut être
à un
juste.
Moment donné. Ouais, tout
Donc,
à fait.
Si c'est valable pour les uns, c'est valable pour les autres.
Absolument. Alors Anne-Marie, on arrive doucement au terme de cet entretien. On reviendra sur tous ces sujets-là parce qu'ils sont effectivement extrêmement importants. Nous, ce qu'il faut qu'on retienne aujourd'hui, c'est que l'association ALCIP existe et qu'elle est opérationnelle et qu'elle se cherche des camarades de combat, de lutte.
Tout à fait, merci beaucoup.
Avec plaisir, que le site internet, donc on le redit, c'est www.alcip.ch, ALCIP en l'orthographie, ALCIP.ch, et que notamment parmi l'actualité constante de cette association, bien effectivement cette aide aux personnes qui sont précaires et cette lutte contre les injustices sociales et que, eh bien, parmi les injustices sociales, en tant que telles, en tout cas elles sont recensées, eh bien, il y a le soutien au référendum contre la surveillance des assurés. Donc au moment du 25 novembre, votons conscient et votons bien comme il faut.
Tout à fait.
Alors peut-être le mot de la fin, un dernier appel ou quelque chose à dire pour en terminer pour aujourd'hui seulement.
Merci. Bah, écoutez, je lance un appel à la population pour qu'on redevienne raisonnable. Et ça, c'est important, raisonnable et humain.
Très bien. Anne-Marie, fondatrice et présidente de l'association Alcip, merci beaucoup à vous.
Merci
et
à
puis
vous.
On se retrouve bientôt.
Merci, au revoir.
Super, merci, au revoir.